Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Selon Santé publique France, la durée moyenne de sommeil quotidien des Français est passée sous la barre des 7 heures. Et si face à une dette de sommeil qui devient chronique dans notre pays, on s'administrait un remède simple, efficace et qui ne coûterait rien à l'assurance maladie, je veux parler de la sieste. Un remède ancestral et la sous-estimer, voire raillé dans certains milieux où l'amateur de sieste passe pour un cossard, une feignasse, un paresseux. Nous verrons que la sieste possède des bienfaits miraculeux pour les petits et les grands. Et puis nous verrons quelle est sa durée idéale et la position optimale pour bien siester. Mes complices cet après-midi, Guillemette Audicino et Éric Libio. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour à nos invités. Bonjour Brice Farot.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences. Vous dirigez des recherches sur les effets de la privation de sommeil et de la récupération de sommeil chez l'homme. Vous êtes le spécialiste de la recherche sur la sieste en France et vous publiez chez Actes Sud dans la collection Questions de santé, sauvé par la sieste. Bonjour Frédéric Schifter.
Bonjour.
Philosophe, vous êtes en direct de Bayonne, vous êtes l'auteur du blog Le Philosophe sans qualité, vous êtes l'auteur d'une mystification littéraire Ménécée, le voluptueux inquiet aux éditions Louise Bottu, et vous êtes un adepte de la sieste tout au long de l'année, hein. Vous me confirmez ça, Frédéric Schifter? Alors, je vous cite L'art de la sieste et autres plaisirs poétiques de l'été, une anthologie de poèmes chinois. C'est l'été, sans nul doute, que l'art de la sieste trouve son expression poétique la plus accomplie. Fenêtres grandes ouvertes, la brise suave, merveilleusement fraîche, vient conférer à la rêverie du début d'après-midi son aérienne poésie et sa légèreté philosophique. Vous êtes d'accord avec ça, Brice Farot?
Complètement, complètement. Mais peut-être, vous avez parlé en entrée d'émission de l'enquête de Santé publique France, auquel j'étais co-auteur aussi. Bon. Alors, on a le remède, vous en faites pas. C'est ce que je propose dans mon livre. Je détaillerai un sommeil biphasique. Mais avant, première chose, les Français quand même globalement souffrent du manque de sommeil, parce que dans cette enquête, sans rentrer trop dans les détails, quand même, ce que c'est impressionnant, c'est que un quart des Français, hein, c'est quand même une enquête que t'avais fait sur plus de 12 000 personnes, montrer une dette de sommeil sévère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une dette de sommeil sévère? Ça veut dire qu'ils dorment 90 minutes de moins en moyenne la semaine, hein, qu'il aurait nécessaire pour fonctionner correctement au point de vue cognitif et physiologique. Et 90 minutes en moyenne, à la fin d'une semaine, ça fait une nuit en moins par semaine. Et là, malheureusement, dormir si peu, ça a des répercussions à long terme.
On va revenir sur les effets de cette dette de sommeil, mais l'un des grands plaisirs de l'été, c'est la sieste.
Oui, alors évidemment, je sais pas pourquoi, comme par hasard, ce sujet arrive au moment de l'été. Alors moi, je vais le prendre, c'est très bien, merci d'en parler. Mais la sieste, c'est justement l'été et l'occasion, parce que beaucoup de gens vous diront, sont réfractaires dans leur capacité à faire la sieste. Donc, c'est l'occasion de commencer à s'entraîner, hein, c'est comme un travail, à s'entraîner à faire la sieste tout au long de l'été, où finalement, elle est pour le plaisir, pour le goût, on pourra en parler, parce que il y a des capacités créatives qui peuvent être issues de la sieste, c'est agréable, évidemment. Mais ça peut être aussi un intérêt de s'entraîner pour qu'elle devienne un outil de santé publique le reste de l'année, où malheureusement, c'est là que la dette de sommeil est plus présente dans la semaine.
Frédéric Schifter, vous aimez la sieste et pas seulement l'été, hein?
Ah non, 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 en toute saison, et pour moi c'est le passe-temps royal, enfin c'est mon passe-temps favori.
Et pourquoi?
Eh bien, parce que il me semble que là, c'est l'occasion de la sieste que l'on peut se retrouver soi-même et en tout cas se mettre à l'écart du monde, parce que le monde est au fond une multiplicité d'agressions, de sensations parasites, etc. Et quand on fait la sieste, eh bien, on met le monde entre parenthèses et on se ressaisit et on se recentre en soi-même. Pour s'abandonner peut-être à des pensées comme ça divagantes, etc., ce qu'on appelle des rêves ou des rêveries. Mais en attendant, je pense que c'est une façon de résister aussi. Moi, je vois dans la sieste une forme de résistance à l'oppression du monde.
Et dans l'art de la sieste, Thierry Pacot écrit la chose suivante. Siesteuses et siesteurs de tous les âges, de toutes les latitudes et fuseaux horaires, de toutes les professions, affirmez votre singularité et résistez au temps planétaire, satellitaire, totalitaire. Vous souscrivez évidemment, Frédéric Schifter.
Ah bah évidemment, mais comme je vous dis, je pense même que je suis une sorte peut-être de militant de la sieste. Et alors après c'est difficile de convertir bien sûr les gens à cette forme de résistance, mais qu'ils essayent et ils verront absolument que c'est ils se sentiront beaucoup plus libres, beaucoup plus bien mieux et enfin ils verront à quel point effectivement ce monde est absolument insupportable à certaines heures de la journée, en tout cas.
Brice Farreau, la sieste rime souvent avec culpabilité. Dans une société productiviste, seuls les paresseux et les inactifs s'adonneraient à la sieste.
Oui, alors j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit, évidemment. Donc là, oui, pour aller prendre ça un peu en contre-pied, plusieurs choses. Associées à la paresse, certes, mais... possiblement parce que les gens ignoraient la puissance incroyable de ne que pas avoir la sieste, en particulier révélée par des études scientifiques, certes assez récentes. Deuxième chose, dans un rapport plus global, c'est vrai que c'est toujours mieux valoriser l'activité pour l'activité, bouger pour bouger, changer pour changer, un peu et moins considérer quelque chose de stable, parce que le sommeil c'est quelque chose de stable, et pourtant il se passe tellement de choses pendant le sommeil, et pourquoi on ne s'autoriserait pas à faire une sieste d'une vingtaine de minutes ?
Il y a de la culpabilité, bien sûr. Souvent de se dire ah ben tiens je fais rien, je suis un paresseux peut-être.
Non, parce que en fait paradoxalement on s'autorise à dormir 7-8 heures la nuit, hein, enfin malheureusement de moins en moins 8 heures, mais pourquoi on ne s'autoriserait pas à dormir 15-20 minutes, surtout en début d'après-midi où tous les voyants physiologiques sont au vert pour faire une sieste, hein. C'est un moment en début d'après-midi. Les Français se lèvent en moyenne autour entre 6h30 et 7h du matin. Donc, en début d'après-midi, c'est un moment où les systèmes de stress, les systèmes d'éveil vous soutiennent moins. C'est un moment où la pression du sommeil monte, un moment où physiologiquement, vous avez une petite baisse de la température centrale. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour avoir la meilleure sieste de récupération possible. C'est peut-être un reliquat de la dernière sieste de l'enfance qui disparaît malheureusement vers 4-5 ans.
Frédéric Schifter.
Oui, bien sûr, j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit. Et non, je rappelle simplement que la sieste vient du mot sexta, hein, l'étymologie. C'est-à-dire, c'est la sixième heure après le lever du matin. Et alors, évidemment, ça tombe justement après le repas de midi. Alors, on pourrait croire que la sieste, oh, c'est une affaire de digestion, etc. Non, je pense que cette sixième heure, c'est vraiment l'heure idéale pour couper la journée en deux, de telle sorte qu'on a ensuite deux journées, si vous voulez. Moi, je pense que l'adepte de la sieste, c'est un art, au fond, c'est l'art d'avoir deux journées en une. Voilà, on a un premier matin, très bien, et puis après, il y a l'autre matinée ou l'autre levée après la sieste, et on peut dire qu'une autre journée commence. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je la vis.
Frédéric Schifter, ouais. Je ne sais pas vous, mais j'aime bien le synonyme de la sieste, la méridienne. J'aime beaucoup ça, et vous ?
Ah ben oui, en plus ça rappelle un peu aussi le genre de canapé sur lequel on peut s'étendre et s'abandonner à la rêverie. Alors bon, alors, pardonnez-moi, je continue un peu, mais pour moi la sieste c'est pas forcément tomber dans le sommeil, ça peut être aussi un peu comme Rousseau, vous savez, dans la cinquième promenade du promeneur solitaire, il évoque une espèce de somnolence qui n'est pas le sommeil, mais oui, ce qui sont des rêveries, des pensées confuses, mais qui sont voluptueuses.
Guy Métodicino.
En fait, moi, je suis né dans le sud. Et alors, ce que vous racontez, enfin, moi, ça me parle énormément, et même dans beaucoup de pays du sud, mais ça revient au fait qu'il faut s'entraîner l'été, parce qu'il faut s'entraîner quand il fait chaud. Parce que dans les pays où il fait à peu près tout le temps chaud, effectivement, enfin, c'est après le déjeuner que même les magasins ferment. Souvent, il y a encore des villages en Provence et tout. Les magasins ferment, on ferme les volets et alors on s'abandonne à une rêverie ou alors on fait un gros roupillon. Ça dépend des catégories et on ne rouvre les boutiques ou on ne ressort dans les rues que quand la grosse chaleur est passée, qu'on s'est reposé et on attaque une deuxième journée. Enfin, il y a vraiment cette pause entre 12h et 15h où là, on baisse la température, mais dans tous les sens du terme, on baisse l'activité, on baisse la température et tout. Donc, en fait, allez tous dans le sud pour vous entraîner à la sieste.
Alors, j'aimerais qu'on revienne, Brice Farreau, avec cette notion de dette de sommeil. C'est quoi exactement cette dette de sommeil ?
Alors la dette de sommeil, c'est alors comment on la mesure? Alors je vous disais tout à l'heure, c'est le nombre d'heures de sommeil qu'il vous manque par rapport au nombre d'heures idéales. Une autre manière de la voir, c'est de regarder comment on dort le week-end en comparaison de comment on dort la semaine. Nous, les chronobiologistes et neurobiologistes, on appelle ça un social jet lag, donc un jet lag social. Pardon, j'ai fait la terminaison anglo-saxonne. Donc un jet lag social, c'est pas qu'on se dépasse pas sur plusieurs fuseaux lorsqu'on prend l'avion, mais le fait de dormir 2 heures de plus en moyenne le week-end que la semaine introduit un nouveau rythme biologique artificiel. Et moi, depuis toujours, je dis que ça ne suffit pas pour récupérer, pour l'ensemble des compartiments de l'organisme récupère. Et c'est le cas. Alors, c'est toujours bien de récupérer le week-end. Hein. 15% des Français ont un social jet lag supérieur à 2 heures, selon cette dernière enquête, ce qui est trop élevé. Par contre, je finis juste.
Il existe des petits débiteurs qui remboursent vite et de grands endettés qui peinent à rembourser tout au long de leur vie cette dette de sommeil.
En fait, il y a une partie qui sera malheureusement perdue à jamais. Et pour finir sur ce que je disais juste avant, c'est il y a des études qui viennent de sortir qui montrent que la récupération du week-end, certes, on récupère une partie des fonctions, mais par exemple, si je prends la résistance à l'insuline augmente lorsqu'on est en privation de sommeil. Alors, un exemple très simple pour marquer vos auditeurs, on dort 5 nuits de 5 heures, on gagne 800 grammes en poids. Ce n'est pas lié au fait qu'on était éveillé plus longtemps et qu'on a mangé plus, c'est qu'il y a un système de récompense dans le cerveau qui fait qu'on va plus vers la nourriture. Et donc ça, au bout d'un moment, ça peut provoquer les maladies cardiovasculaires qu'on voit chez les courts dormeurs. Et le week-end, on récupère une partie de la résistance à l'insuline, mais pas l'ensemble de la résistance à l'insuline.
Mais donc, on n'est pas tous égaux face à cette dette. J'essayais de vous dire tout à l'heure.
Ah, pardon. On n'est pas. Non, alors vous parlez des petits dormeurs, peut-être.
Il y a des petits endettés, puis des gros endettés.
Absolument. Et puis il y a des gens qui sont plus tolérants et moins tolérants à la privation de sommeil. Donc là, il y a une origine génétique à ça. Et puis, il y a les vrais petits dormeurs, mais c'est un épiphénomène. Les vrais petits dormeurs, c'est 7-8% de la population, ceux qui fonctionnent correctement.
Et pour vous, donc, la sieste, c'est un médicament souverain contre cette dette?
C'est un.
Vous l'écrivez?
Oui, absolument. Oui.
Vous parlez même de potion magique.
Potion magique. Oui, ça peut l'être. Alors peut-être à la fin du livre, on avec Actes Sud, on a fait un pan sieste qui explique tous les types de siestes, les durées de siestes selon les effets recherchés. Et en effet, je classifie en 2 types de siestes, les siestes énergisantes, ce qu'on appelle chez les Anglo-Saxons, ils appellent ça la power nap. Donc tout de suite, c'est mieux parce que vous disiez que c'était mal considéré, c'est mieux vu, il y a une notion de puissance dedans. Je pourrais vous parler du Japon Le Japon par exemple, la sieste est complètement intégrée dans les modes de vie, au point que les cadres qui ne la feraient pas seraient presque considérés comme des fainéants, parce qu'ils n'en ont pas besoin, c'est quelque part, ils s'organisent mal, ils ne font pas face de manière optimale face à leur surcharge de travail. Donc ce que vous me demandiez à l'instant, c'est oui, et l'autre type de sieste, la sieste thérapeutique, en effet on l'appelle thérapeutique, parce qu'à partir du moment où il y a du sommeil lent profond, donc il faut dormir 20-30 minutes pour commencer à avoir du sommeil lent profond. Et là on voit des effets sur le métabolisme, sur le système immunitaire, sur la douleur, qui sont bénéfiques. Une sieste plus courte, on a déjà des effets positifs évidemment sur la vigilance. Je vous rappelle que la sieste, ça vous sauve lorsque vous êtes très somnolent au volant. Et ça a des effets sur l'humeur. Donc ça, c'est beaucoup plus agréable lorsqu'on travaille en communauté.
Et on verra tout à l'heure qu'il existe un véritable art de la sieste. Éric Libiou, vous êtes un adepte, vous, de la méridienne?
Non, enfin si, je trouve ça désagréable, mais je voulais revenir à ce que vous disiez. Il faudrait effectivement, alors je comprends les bienfaits de la sieste,
mais
il faudrait
que... Vous ne m'avez pas répondu.
Non, je ne suis pas un grand adepte de la... J'aime bien m'allonger, bouquiner, mais dormir, pas tant que ça. Puis je suis un dormeur, je ne dors pas beaucoup. Bon, bref. Non, je voulais revenir, il faudrait que socialement, dans les professions, dans les lieux de travail, que la société accepte qu'on puisse dormir, et ce qui n'est pas aujourd'hui en France, en tout cas, accepté vraiment. Il faudrait mettre ça en place pour satisfaire à ces besoins de la sieste.
Alors, on y travaille, quand même, les idées infusent de plus en plus. Écoutez, sur les dernières enquêtes, on voit qu'un tiers des actifs en France pratiquent la sieste. Donc, ça veut dire que les choses sont quand même en train de changer et qui c'est pas le, aux États-Unis, au Japon, on est dans l'ordre de 50%. Je parle des actifs parce que moi,
on dort sur le fauteuil, sur les sièges, sur les canapés.
On va en parler si vous voulez.
On reviendra sur cette question de la sieste au travail. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par David Le Prince. Les Bee Gees, c'est bon ça pour faire la sieste.
Doucement, ouais. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wonder.
How deep is your love?
Grand bien vous fasse.
Là, on n'a pas cours aujourd'hui?
Non.
Qu'est-ce qu'on va faire?
La sieste.
Oh, je m'emmerde.
Et la sieste?
Oh, c'était pas non! C'est pas encore l'heure de la sieste! Allez hop, debout, souriez!
Sur France Inter.
Et cet après-midi, nous célébrons l'art de la sieste en compagnie du docteur Brice Farot et du philosophe Frédéric Schifter.
Ben, mon gars, ça va pas?
J'ai sommeil.
Mais tu dors depuis 3 jours.
Eh ben justement, c'est le moment, je récupère, je rattrape.
Salut. Exxon. Oh.
Ah non, pas toi, hein.
Tu vas pas rester là?
Si.
Dans ton lit?
Oui.
Bah elle travaille.
Je m'en fous.
Et ta terre?
Elle fait comme moi, elle se repose.
T'es dingo?
Je suis fatigué. Depuis 10 ans, je suis fatigué. Je récupère, je te dis. Salut.
Extrait d'Alexandre, le bienheureux d'Yves Robert.
Et il faut le revoir, parce qu'on en parle tout le temps comme un éloge de la paresse. C'est bien plus que ça, en fait, Alexandre le bienheureux. À le revoir, c'est aussi un manifeste libertaire. La sieste et le fait de dormir veut dire, exactement comme dit Frédéric Schifter, autre chose. C'est un refus d'aller dans le sens que le monde vous impose.
Frédéric Schifter, philosophe, je le rappelle, vous sentez un cousinage avec Alexandre le bienheureux?
Ah ben oui, il fait partie de mon panthéon, évidemment. Moi, j'ai vu Alexandre le Bienheureux quand j'étais tout môme, et je crois que c'est un film qui précède Mai 68 et qui l'annonce, hein, d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, le Mai 68, pas celui des gauchistes ni des syndicalistes, mais le gauchiste libertaire, comme le dit Guimet, avec vraiment un souci de s'en foutre, quoi. Du travail, du productivisme, etc. Bref, et là, c'est une société dans laquelle nous sommes rentrés. Je parle de la société productiviste et consumériste. Et effectivement, et la sieste est pour moi, effectivement, comme je disais, un acte de résistance. Alors tout à l'heure, si je peux me permettre encore quelques mots, c'est aussi un art. Et quand j'entendais Brice Farot parler des différentes formes de sieste, je sais plus, power nap, je crois, etc. Oui, Oui, moi j'en étais resté à trois types de siestes. La micro-sieste de 5-10 minutes qui permet de récupérer un peu. La sieste éclair, alors on dit 20 minutes, une demi-heure. Et puis la sieste royale, alors là c'est au moins une heure. Alors moi je trouve ces siestes là assez riquiqui au fond, parce que, alors peut-être parce que j'habite Biarritz, la ville de Napoléon III, mais moi je pratique une sieste impériale, c'est-à-dire que, alors je prends mon temps, il faut, parce que la sieste il faut se préparer, il faut s'allonger, il faut se mettre en tenue très molle, et puis prendre un bouquin, ne pas forcément le lire, enfin, et vraiment s'abîmer dans quelque chose qui ressemble à une sorte d'inconscience indolente, si vous voulez. Et il faut que ça dure. Enfin, une heure et demie, deux heures. Enfin, faut pas compter, si vous voulez. Il faut pas mettre de réveil. La sieste et le réveil, c'est une forme barbare. Enfin, bon.
Rappelons, Frédéric Schifter, que vous êtes en retraité de l'éducation nationale et que vous avez un peu le temps.
Je crois que j'ai toujours pris, en tout cas.
Il y a aussi la sieste qui vous attrape par accident. Genre, il y a la sieste, vous êtes dans un fauteuil, vous êtes en train de lire, et tout d'un coup, ce merveilleux coup de barre qui fait que vous vous réveillez deux heures après, quand même. Donc, il y a la sieste surprise.
Alors, Brice Farot, vous publiez un ouvrage d'utilité publique, Sauvé par la sieste, sous-titré Petits sommes et grandes victoires sur la dette de sommeil. Alors, le sommeil, c'est un grand reconstituant, il nous permet d'accomplir un grand nettoyage physiologique, mais pas seulement la nuit. La sieste y contribue fortement.
Oui, absolument. Le sommeil, c'est notre première médecine, finalement. Et il y a un nettoyage. Pendant le sommeil, le cerveau est nettoyé. C'est-à-dire que pendant la veille, on accumule plein de substances toxiques. Et ben, tout ça est nettoyé pendant le sommeil la nuit, pendant le sommeil de sieste. Les hormones de stress, il faut refroidir le système. Et ça, on l'a bien démontré, des collègues aux États-Unis et moi-même, que au cours d'une sieste, avec un peu de sommeil lent profond, on réduit l'activité des systèmes de stress. Et c'est pas négatif du tout, parce que au sortir de la sieste, ensuite ils pourront remonter plus rapidement et on pourra être plus efficace et plus performant. Ensuite, il y a un effet anti-inflammatoire qui a été démontré aussi de la sieste. Et toujours dans l'idée du nettoyage. Cette fois, parlons de la mémoire une minute. Consolider la mémoire, c'est le sommeil qui le fait. Et pour consolider la mémoire, on doit aussi éliminer tout un nombre d'informations parasites. Et ça se fait la nuit, bien évidemment, mais ça se fait pendant la sieste. Et dès 6 minutes de sieste, on va consolider un apprentissage déclaratif. Il y a une expérience qui vient de sortir qui est assez jolie. Des étudiants ont appris des notions pas très amusantes, très rébarbatives en zoologie. On leur a dit, vous les apprenez le matin, ensuite soit vous faites une sieste d'une heure, soit vous continuez à bachoter, soit vous faites rien du tout, mais vous restez éveillé. Et bah évidemment, le soir, la restitution des connaissances était meilleure, ceux qui avaient dormi et bachoté, mais une semaine après, seuls ceux qui avaient dormi avaient mieux consolidé cet apprentissage au cours d'une sieste.
Et c'est pour cela que la sieste est fondamentale chez les tout-petits jusqu'à 2-3 ans. Ça permet de consolider tout les apprentissages.
Absolument, vous avez complètement raison. Le langage, les apprentissages sociaux, tout ça se fait, cette plasticité incroyable chez l'enfant pendant la sieste, et qui a beaucoup, et des siestes très riches en sommeil paradoxal, qui est un sommeil important pour toute la consolidation de ces apprentissages.
Alors vous écrivez que la sieste est une nuit en miniature, transportable en tout lieu, consommable à toute heure et délicieusement protectrice. Alors on ne le sait pas assez, mais il existe un pouvoir de la sieste, c'est-à-dire de produire à un temps record certains effets de la nuit de sommeil.
Alors, certains effets. Alors, certes, la sieste vient en renfort de nuit de sommeil, et les effets sont plus minimes, hein, bien entendu. Mais pour passer au-dessus du seuil de 7 heures par 24 heures, dont on parlait au début, écoutez, si vous dormez 6 heures et demie, vous manque une heure et demie, faites une sieste de 20 minutes, une demi-heure, et tout de suite, vous pouvez rattraper ce qui vous manque, finalement, y compris pour les effets dont vous parlez, qui sont, évidemment, c'est du sommeil. Alors après, on pourra peut-être détailler, il y a selon la durée de la sieste, notre philosophe tout à l'heure l'évoquait, selon la durée de la sieste, vous avez différents stades de sommeil qui n'ont pas les mêmes effets.
Alors, je connais des gens qui ne veulent pas siester parce qu'ils éprouvent du mal à s'endormir. Et d'autres, au contraire, qui n'aiment pas ça parce que le réveil, mon Dieu, il est très douloureux.
Oui, complètement. Et souvent des gens qui en ont besoin d'ailleurs, parce que ils ont un niveau de stress assez élevé, donc ils sont, parce que le manque de sommeil augmente le stress. Et le stress et l'anxiété est l'ennemi de l'endormissement, quelque part. Donc les gens qui ont besoin de faire ces siestes, mais qui n'y arrivent pas, alors plusieurs choses à leur dire. On peut s'entraîner, on peut s'entraîner, pardon. Voilà, je veux dire aux auditeurs, je tape sur la table et ça fait du bruit et je me fais engueuler. C'est parce que je crois à ce que je dis, c'est tout. Mais ici, on n'a pas le droit de taper sur la table. Je vais attacher mes mains. Personne ne vient m'attacher les mains derrière le dos. Voilà. Donc maintenant que mes mains sont attachées, je continue mon propos. Donc, les personnes, pour revenir plus sérieusement, qui n'arrivent pas à rentrer en sommeil de sieste, on peut habituer son corps à la sieste. L'horloge biologique, qui est plastique, va, si tous les jours, à la même heure, j'essaye, la première fois, je suis pas arrivé à dormir, la deuxième fois, je ne suis pas arrivé, la troisième fois, je continue, et au bout d'un moment, le corps va vous, en récompense, va vous permettre de dormir plus facilement. Et puis, dernière petite chose, toutes les 1h30, 2h, on a des fenêtres de sommeil, la plus importante est au milieu de la nuit et en début d'après-midi, il faut les utiliser, il faut écouter son corps pour rentrer en sommeil de sieste.
Et ce retour là à la vie après une bonne sieste là, il est parfois très difficile. C'est le gros coup de barre quand même, Brice Farot.
Mais c'est parce qu'on a été beaucoup fatigué en fait. Donc oui, en sort plus difficilement, non?
C'était la deuxième partie de votre question. Absolument. Alors, ça s'appelle l'inertie du sommeil. Ça, c'est proportionnel au sommeil lent profond qu'on a eu. Alors évidemment, si je fais une petite sieste, une power nap, parce que je dois être opérationnel rapidement pour un rendez-vous, je dors 10 minutes, je vais pas avoir de sommeil lent profond. Mais ce que vous évoquez, c'est qu'on dort 20 minutes, 30 minutes, voire plus, on va avoir du sommeil lent profond. Alors, cette inertie du sommeil, on est dans le gaz. C'est un état tampon physiologique tout à fait favorable, en fait. Le problème, c'est qu'il nous arrive en milieu de journée, parce que le matin, ça permet à l'ensemble des systèmes, la tension artérielle, cardiaque, de remonter doucement. Alors, comment s'en départir? Alors, plusieurs choses. Soit, je suis en forte dette de sommeil, je travaille de nuit. Donc, dans ce cas-là, je prépare un moment pour... Je sais que pendant une demi-heure, je vais être dans le gaz. Je prends un moment pour en sortir. Deuxième chose, j'utilise la caféine, la lumière, qui sont des astuces physiologiques, des outils qui vont permettre...
La caféine avant de dormir.
Eh oui, ça c'est contre-intuitif. Alors attention, j'explique très vite. Un café, lorsqu'on prend de la caféine, ça met 5 minutes à traverser la barrière digestive. Au bout d'une vingtaine de minutes, on a l'effet psychostimulant au niveau du cerveau. Donc je prends un café, je m'endors vite. Attention, parce que si je m'endors pas vite, ça va pas marcher. Je m'endors vite et 20 minutes après, j'ai mis mon portable. Désolé, retraité de l'éducation nationale, mais il faut mettre son portable en semaine parce que sinon, ça va être compliqué de continuer de pas se faire virer. Hein, Donc, je mets mon portable 20 minutes après et l'effet de la caféine commence à arriver alors que je me réveille. Et donc, ça, c'est formidable. Alors, petit message de santé publique, la caféine, pas trop tard le soir. La demi-vie, c'est 4-5 heures. On va pas entrer dans le détail, mais attention si on est sensible à la caféine pour l'endormissement.
Le retraité de l'éducation nationale, Frédéric Schuster.
Oui, pardon. Non, mais c'est juste que je travaille beaucoup avec des gens qui sont en dette de sommeil dans des situations de pression de travail, etc. Donc je peux pas leur dire malheureusement ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Et je comprends très bien. D'ailleurs, les siesteurs par goût et par plaisir qu'on a aussi étudié complètement, ils font des longues siestes où ils se réveillent, ils s'endorment, ils en tirent un bénéfice psychologique de la créativité, etc.
Vous voulez pas le prendre entre laboratoire, Frédéric Schuster?
Non, il a tout compris, il n'y a pas besoin.
Oui, j'ai tout compris. Oui,
on vous écoute, Frédéric.
Oui. Non, j'ai tout compris. Mais d'ailleurs, je suis très, très content de voir que finalement, j'ai fait toute ma vie des neurosciences sans le savoir, d'une certaine façon. Et des travaux pratiques. Après. Moi, je pense que la meilleure façon de se réveiller d'une sieste où on est un peu vaseux, c'est tout simplement d'attendre, oui, le temps nécessaire. Mais il faut du temps, quoi. L'adepte de la sieste est un amoureux du temps. C'est un jaloux du temps à soi. On se réveille d'une sieste comme on se réveille le matin, en prenant un thé, en mangeant des carrés de chocolat, en n'étant pas pressé. Enfin, il faut, quand on fait la sieste, ce n'est pas pour reprendre le boulot, ce n'est pas pour repartir dans une activité stupide. Il faut faire la sieste avec l'intention, effectivement, de jouir de la journée qui reste.
Et un auditeur nous demande, et la sieste crapuleuse alors, Brice Farot? C'est une vraie sieste, ça?
Alors ça, c'est une question qui revient toujours. Donc la sieste crapuleuse, quelque part, ça détend. Donc si ça détend, on s'endormira plus facilement, cette fois dans une vraie sieste avec du sommeil, après la sieste crapuleuse.
Alors on fait beaucoup de siestes, on l'a dit, jusqu'à l'âge de 3 ans. On fait des siestes à l'adolescence. Puis il existe un troisième âge de la sieste. Après 60 ans, selon une étude de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance en 2010, la moitié des plus de 60 ans font une sieste d'une demi-heure vers 13h30. Plusieurs fois par semaine.
Oui, alors c'est plus on avance en âge, plus les systèmes d'éveil se dégradent, si vous voulez. Donc vous soutiennent moins dans la journée. Donc une manière de d'être performant, continuer à être performant, oui, c'est de faire ces siestes de 30 minutes absolument dans la journée. Donc c'est souvent, et puis en plus il y a une avance de phase. Quand plus on vieillit, plus on va se coucher tôt. Donc souvent les gens sont pas habitués, ils ont besoin de récupérer en effet par cette sieste de 30 minutes.
Je suis le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance et la haine. Et je vais là où le vent m'emmène. Je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents. Tu peux me voir dans le noir. Et peut-être que ce soir je t'entends dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie.
La femme interprétait le sang de mon prochain.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Et cet après-midi, nous célébrons l'art de la sieste en compagnie du docteur Brice Farot et du philosophe Frédéric Schifter.
Contrairement aux apparences, Myriam et Margot sont bien au travail. Ces deux collègues ont pris l'habitude de faire une sieste avant de retourner à leur bureau.
On sent bien. On se sent reposé et prêt à réattaquer la journée de travail.
J'ai un autre œil sur ce que j'ai écrit et je suis beaucoup plus productive aussi, beaucoup moins fatiguée comme on a des longues journées.
Cette entreprise spécialisée dans le digital propose 3 salles de repos. Loin d'être un sujet tabou, la sieste est vue comme une solution pour le bien-être des salariés.
Les gens sont assez autonomes dans la gestion de leur temps. Bien travailler, c'est aussi très dans les meilleures conditions. Et travailler fatigué, c'est pas du bonne condition de travail.
Alors, faut-il rendre la sieste obligatoire en entreprise? Selon les études, dormir 20 minutes augmenterait la productivité de 35%.
On va faire du sommeil lent léger, qui va permettre en fait une régénération en fait, et une augmentation en fait, de notre vigilance.
Brice Farot, vous confirmez ces affirmations dans ce reportage de BFM TV le 12 juin dernier ?
Oui, oui, alors ça c'est mieux que BFM, plein d'études scientifiques qui ont démontré que, en effet, lorsqu'on dort même 10 minutes de sommeil lent léger permet d'augmenter tout un type de performance, la mémoire de travail, la concentration, l'attention, l'humeur, ce qui est pas négligeable, et ça permet de tenir 2-3 heures dans l'après-midi lorsque on n'a pas assez dormi la veille, et donc elle vient, comme on disait, en renfort, et c'est vraiment gagnant-gagnant. Et puis on parlait du rapport au temps, et c'est un gain de temps de faire une sieste. On gagne du temps, on n'en perd pas, puisque on gagne en vitalité, on gagne en efficacité. Et dans mon livre, d'ailleurs, ça, c'est plus pour rebondir à ce que disait Monsieur Shifter, pardon, que depuis que le temps est argent, c'est vrai que le cours du sommeil a chuté, quoi. C'est clairement parce que l'hyperconnexion, enfin, tout vous sollicite pour que ça devienne variable d'ajustement, ça devienne facultatif, le temps de sommeil.
Bonjour Alexandre Jost.
Bonjour Ali.
Fondateur de la fabrique Spinoza, vous avez mené une étude sur la qualité de vie au travail et parmi vos propositions figure la sieste. Vous voulez créer un droit à la micro-sieste au travail. Qu'est-ce que la fabrique Spinoza propose concrètement ?
Bah, en fait, on s'est inspiré de la législation et notamment du droit à la déconnexion, en se disant qu'on pouvait l'étendre à un droit à la micro-sieste pour faire la preuve de cette idée. Si on autorise ou on considère normal que les collaborateurs regardent leur mail chez eux, il y a quand même 20% des Français qui regardent leur smartphone dans les 5 minutes qui suivent le réveil, et souvent pour lire leur mail. À l'inverse, pourquoi ne pas s'autoriser à prendre un moment pour se régénérer au travail ? Donc nous, notre proposition, c'est un droit d'une micro-sieste de 15-20 minutes au travail, qui pourrait notamment être inséré dans les négociations annuelles obligatoires, et pourquoi pas un soutien financier de l'État à l'aménagement d'espaces pour dormir. Et alors on peut se dire, mais les entreprises vont être contre. Alors déjà, l'émission fait la preuve qu'il y a un bénéfice humaniste, mais il y a un bénéfice économique, et ce chiffre me semble frappant. C'est le cabinet de recrutement ALF qui révèle que pour 64% des directeurs financiers et administratifs, eh bien, il est intéressant, ils sont favorables à ce qu'il y ait une sieste de 20 minutes par jour. On n'est pas en train de parler des RH, hein, on est en train de parler des responsables financiers des organisations.
Tiens, on écoute un chef d'entreprise. Bonjour Anthony Bleton-Martin, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Dans votre entreprise, il est possible de faire la sieste ?
Ah oui, absolument. Parce que j'ai toujours considéré que on considère chez Novius que on a le droit d'être fatigué au travail, que c'est pas réservé au week-end. Donc on a le droit d'être fatigué, alors pas tout le temps, hein, bien sûr, mais vous l'avez souligné dans l'émission, c'est un besoin physiologique, en particulier après le repas. Alors moi, il faut préciser, je suis lyonnais, alors donc on va souvent au restaurant, on boit parfois un petit verre de Beaujolais, donc ça peut jouer aussi, mais c'est un cycle naturel, donc ça paraît complètement aberrant de ne pas pouvoir dormir au travail.
Mais comment vous est venue cette idée qui peut paraître saugrenue à certains peut-être de vos collègues chefs d'entreprise ?
Ben, elle m'est venue que je viens de la campagne, précisément du Beaujolais, donc à la campagne on fait un peu plus la sieste, et je pense qu'on faisait plus la sieste il y a quelques dizaines d'années, et malgré tout le besoin physiologique n'a pas disparu. Alors maintenant moi j'ai une vie très urbaine, chez nous on est dans un cycle comme vous avez décrit ça, hein, c'est il faut travailler, on est sur écran, on fait des sites web, donc on a quand même un impératif de productivité, mais sur écran on a tendance un peu à s'assoupir. Alors si on pique du nez sur le clavier, ça fait un peu désordre, donc du coup il y a des gens qui se cachent pour faire la sieste, et c'est assez terrible. Il y a des gens qui se cachent dans leur bureau, il y en a qui ceux qui peuvent bouger se cachent dans leur voiture. Moi j'ai parlé avec pas mal de gens sur ce sujet, il y a même des gens qui se cachent dans leur toilette. Donc là quand on en arrive ici, c'est signe qu'il y a un problème. Donc il faut assumer qu'on a des besoins physiologiques de sommeil, et donc du coup la meilleure solution c'est d'installer un endroit pour ça.
Alors est-ce que vous aimeriez que les organisations syndicales patronales se saisissent de cette question de la sieste au travail ?
Peut-être. Moi, je suis toujours un peu partisan des initiatives individuelles. Après, je pense que c'est aussi à tout le monde de réaliser que c'est un besoin. Je pense pas que ce soit une négociation, parce que vous voyez, moi, je suis patron de mon entreprise, et c'est moi qui l'ai impulsé. Donc, c'est aussi aux patrons eux-mêmes d'accepter qu'ils ont besoin de dormir eux aussi. Et finalement, c'est un geste collectif. Je pense pas que ça. Que ça soit une revendication à porter forcément, c'est quelque chose qui est universel en réalité.
Frédéric Shifter, votre regard de philosophe sur les siestes en entreprise, est-ce que vous auriez aimé siester avec vos collègues profs de latin ou profs de maths ?
Ah non, quel cauchemar. Non, non, j'ai
pas
d'avis.
Pardon, Frédéric, je vous ai pas entendu.
Non, par contre, je voyais toujours d'un œil tout à fait bienveillant et plutôt, oui, sympathique, le fait que mes élèves dorment dans mes cours. Voilà. Si on avait pu dormir tous ensemble, ça aurait été très bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que je demandais toujours un emploi du temps vide l'après-midi, de telle sorte que j'ai mes après-midi de libre. D'ailleurs, je les obtenais assez facilement parce que je crois qu'on avait compris quel homme j'étais. Et bon, mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, la sieste d'entreprise, mais enfin, vous savez, bon, tout à l'heure, on parlait d'Alexandre le Bienheureux, mais j'avais aussi un héros quand j'étais môme, et j'ai toujours regardé, c'est Gaston Lagaffe. Et Gaston Lagaffe, il dort, tout le temps. Il trouve toujours un moyen de se planquer dans une armoire, dans un recoin, etc., de telle sorte qu'il dorme en permanence. Et on voit bien que, alors c'est, à mon avis, c'est pas tellement la fatigue qui atteint Gaston Lagaffe, et moi je suis un peu comme lui. Je crois que c'est surtout l'ennui. Mmh. L'ennui d'être au travail, l'ennui de faire une tâche que vous trouvez absolument inintéressante. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'oppression du monde. C'est-à-dire que le monde vous impose des nécessités, des centres d'intérêt qui n'ont rien à voir avec votre propre nature. Et il me semble que le sommeil, c'est une façon de dissoudre ça. Mmh. Et je pense que l'on peut considérer la sieste comme une sorte de à la fois c'est causé par l'ennui, donc c'est donc un effet de l'ennui, mais en même temps c'est une façon de ne pas s'ennuyer, puisque dans le sommeil on est véritablement hors du monde, et quand on se réveille, eh bien on a échappé à la loi implacable du monde. C'est une fugue.
Merci beaucoup Alexandre Jost et Anthony Bleton-Martin.
Is it all that kind?
Parcells interprétait Free.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et cet après-midi, nous célébrons l'art de la sieste en compagnie du docteur Brice Farrow et du philosophe Frédéric Schifter.
Le déjeuner me donne sommeil, alors je m'assois et je m'endors facilement.
C'est très important de dormir. La sieste, c'est important. Et c'est la base, c'est la vie.
Après avoir mangé, souvent j'ai envie de dormir et tout. Mais je suis pas trop sieste. Je dors tard, je me lève.
C'est pas que j'aime, c'est que quand je la fais, c'est que j'en ai besoin.
C'est pas tellement mon truc. Je dors la nuit et puis le jour, je fais des choses, je suis actif.
J'aime bien être calme, mais j'aime pas être à part. Je suis dans la vie.
Avant de repartir dans l'après-midi, espèce de moment paisible. Moi, j'aime beaucoup faire la sieste, en fait. Il suffit de rester. Je me dis, ah, c'est fantastique, j'ai encore 5 minutes. Ça peut être profond, 5 minutes.
Je pense que si les jeunes aujourd'hui sont plus... le ferait plus facilement en fait. C'est connoté différemment, je pense. Faire la sieste dans notre génération, on ne sait pas.
Les gens de plus, c'est hyper bien de faire la sieste.
Quand je suis dans mon lit, je fais la sieste, des fois 30 minutes se transforme en 3 heures.
Je m'assois un petit peu, n'est-ce pas, sur la chaise. Très confortable.
Propos recueillis dans les rues de Paris cette semaine. Brice Farrow, quelle est la durée idéale de la sieste?
Alors, si j'ai dormi une heure de moins la nuit d'avant, une heure et demie, 10 minutes, 15 minutes de sommeil, j'entends. Il faut préparer un peu de temps pour s'endormir et se réveiller, donc une vingtaine de minutes. Pour tenir le reste de l'après-midi, c'est parfait. Après, si ma dette de sommeil est un peu plus importante, on peut augmenter les durées jusqu'à 30 minutes, où on va avoir un peu de sommeil en profond, c'est donc on travaille plus en profondeur, ce que j'appelle la sieste thérapeutique. Et puis la très longue sieste qu'on évoquait tout à l'heure, la sieste royale d'une heure et demie. Alors là, pour vous donner une idée, dans une sieste d'une heure et demie, on peut avoir 40 minutes de sommeil en profond, le sommeil le plus récupérateur. Et au cours d'une nuit, en moyenne, on a 100 minutes de sommeil en profond. Attention de ne pas la faire trop tard, pour ça peut provoquer des problèmes d'endormissement.
Quelle est la bonne heure, tiens, justement, de la sieste?
Et alors, donc, on a toutes les 1h30, 2h, on a des petits creux de vigilance, on peut s'endormir, mais quand même, l'idéal, quand je travaille de jour et je dors de nuit, c'est en début d'après-midi.
Parce que
c'est
13h30, là qu'elle est le plus... 14h.
Alors, voilà. Alors, les gens qui sont des couches tard, ce sera plutôt un peu décalé vers 15h, et les couches tôt plutôt vers midi.
Quelle est la bonne position du corps? Est-ce qu'il est possible de faire des siestes en position assise?
Alors ça a été aussi des étudiants en laboratoire, figurez-vous. Évidemment, alors une étude marrante, ils ont comparé dans l'avion, hein, ça c'est, j'explique dans le livre, une classe économique, on est incliné à 20 degrés versus business ou encore mieux, on est complètement allongé. Bon, certes, on dort mieux complètement allongé, on a plus de sommeil en profond, plus de sommeil paradoxal et un sommeil moins fragmenté. Mais pour être plus au bureau, j'incline au moins à 40 degrés mon siège, ça va permettre d'avoir déjà sur 15 minutes de sommeil deux fois plus de stade 2 que de stade 1 que si j'étais en position quasi verticale.
Frédéric Schifter, votre position idéale pour la sieste?
Bah écoutez, j'ai plusieurs canapés chez moi et j'en change souvent. Enfin, l'été, c'est sur ma terrasse, un canapé très confortable, mais c'est toujours allongé, bien évidemment.
Guy Metodicino.
Est-ce que le lit est proscrit? Est-ce qu'il faut dormir partout sauf dans le lit?
Non, il y a pas de raison. Hein. Le lit, ça peut être très bien aussi. Après, c'est les gens.
Mais on part pour 5 heures là. Enfin, moi, je m'en réveille plus.
Mais hein. vous mettez votre réveil. La position, en fait, plus vous êtes allongé, moins les systèmes de stress vont être sensibles à l'environnement. Et les systèmes de stress, lorsqu'ils sentent un danger, ils vous réveillent. Donc, si vous êtes allongé, c'est parfait.
Tiens, Lélia, notre stagiaire de seconde vient d'entrer en studio. Tu nous as dit au bureau que t'aimais bien faire la sieste.
Maintenant plus trop, mais quand j'étais petite, tout le temps.
Avec plaisir, sans contrainte?
Ah mais je la faisais tout le temps, je rentrais à la maison, je finissais à 11h30, à 12h15, j'étais au lit jusqu'à 16h.
Brice Farrow.
Oui, alors les lycéens, la question c'est que leur horloge biologique leur dicte d'aller se coucher de plus en plus tard le soir. Ils sont très très connectés, comme vous le savez. Ils laissent même leur portable ouvert, ça fait des petits ching ching et ils pensent que ça les réveille pas, mais en fait ça fait des micro éveils. Ils ont une moins bonne qualité de sommeil. Donc le matin, ils commencent à 8h, c'est l'horreur. Donc eux, les pauvres, moi ce que je propose c'est des siestes proactives. C'est-à-dire on a réfléchi, je vais faire ma sieste à telle heure. Eux, c'est des siestes passives. Ils s'écroulent. Il y a 30 à 40% des lycéens qui font une très longue sieste en début d'après-midi. Donc là, on n'est pas encore au point de vue santé publique pour retrouver une hygiène parfaite pour
les
jeunes.
Mais paradoxalement, tu es une adolescente qui n'aime pas trop faire la sieste.
C'est surtout que j'ai pas trop le temps de la faire parce que...
Et si tu avais le temps?
Ah, peut-être que je la ferais.
Très bien. Bonne résolution pour cet été en tout cas. Merci. Merci beaucoup Brice Farrow et Frédéric Schifter. Vous pouvez retrouver toutes les références bibliographiques sur le site et sur l'appli France Inter. Demain après-midi, on se demande quand continuer ou arrêter quand son couple bat de l'aile. Dans un instant, vous aurez le plaisir de retrouver la série d'Antoine Compagnon, Un été avec Colette.
Je suppose que vous rentrerez toutes à l'école normale l'année prochaine.
Non, moi je rentrerai chez moi.
Comment vous appelez-vous ?
Claudine.
Un été avec Colette.
Et j'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire. Vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non.
Par Antoine Compagnon, Le Faune.
Rue de Courcelles, dans l'appartement où Willy et Colette s'installèrent en 1902, Colette eut une salle de gymnastique où elle s'exerçait aux barres parallèles et aux trapèzes.
Je me suspendais, je tournais autour de la barre, j'étirais mes muscles, presque clandestinement, sans passion et sans virtuosité particulière. En y songeant après, il m'a bien semblé que j'exerçais mon corps à la manière des prisonniers, qui ne méditent pas nettement l'évasion, mais découpent et tressent un drap, cousent des louis dans une doublure et cachent du chocolat sous leur paillasse.
C'était une manière de traiter la dépression que lui causaient les infidélités de Willy ou de la masquer.
Il y a toujours un moment dans la vie des êtres jeunes où mourir leur est tout juste aussi normal et aussi séduisant que vivre. Et j'hésitais.
Mais la gymnastique devint un métier après que Colette prit des leçons de pantomime en 1905 avec Georges Vague.
C'est là où j'ai fait travailler Colette. C'était une élève extraordinaire.
Georges Vague.
Elle avait une façon de prendre les observations de cette façon-là. Je lui disais, tu fais ça, ça et ça. Elle fermait les yeux d'abord. Et elle disait, bon, j'ai compris. Elle faisait autre chose. Et c'était mieux.
Colette réclamait la liberté de son corps et de sa plume. Elle se montra dans des tableaux vivants chez Nathalie Barnet à Neuilly et chez René Vivien à Nice, dans un milieu saphique. Puis elle monta sur scène avec Vague, dont elle devint la partenaire et l'amie, Brague dans La Vagabonde. Colette fit ses débuts publics sur scène le 5 février 1906 au Théâtre des Mathurins comme Faune, dans le mimodrame, le désir, l'amour et la chimère. Puis elle joua dans la Romanichelle à l'Olympia, recueillant un certain succès dans la presse. Dans Pan, en novembre 1906, elle apparut nue sous quelques peaux de bête. Mais le scandale éclata avec Rêve d'Égypte au Moulin Rouge le 3 janvier 1907, pantomime jouée par Colette et Issim, c'est-à-dire Missy, la marquise de Morny. Colette incarnait une momie qui se réveillait et tombait dans les bras de son archéologue.
La pantomime que nous venons d'interpréter pour vous s'intitule Le Rêve d'Égypte.
Salope ! Vicieuse !
Le spectacle fut interdit par le préfet Lépine. La carrière de mime de Colette démarra pour de vrai avec La Chair en novembre 1907 à l'Apollo. Colette interprète Yulka, la femme du contrebandier Hockarts. Elle aime le jeune Yorkie. Dans un moment inoubliable, Vague lui déchire sa robe et un sein jaillit, parfois deux.
Elle avait un costume que je devais arracher, oui. Et c'était devant sa nudité que je m'écroulais, oui. Vaincu. Le directeur, qui était un marchand de bière, il dit tout d'un coup, tonitruant, « Lâchez un sein !» Comme il aurait dit une barrique. C'était nous qui avons fait les premières nudités.
Comment oses-tu poser ainsi, presque nue ?
Lui écrit Sido. Mais elle a des revenus. Colette et Vague tourneront avec La Chair jusqu'en 1911, en France, en Belgique, en Suisse.
Je suis encore ahurie d'avoir eu tant de succès et d'avoir encaissé 973 francs pour deux représentations.
Écrit-elle à Vague en septembre 1908. Ainsi, durant quelques années, Colette gagna sa vie comme mime ou danseuse, disons artiste de music-hall. C'était l'époque de Mistinguette, Polaire, La Belle Otero, Loy Fuller, Isadora Duncan, et le charme pervers, la souplesse féline de Colette, ainsi que le sein nu, remplissaient les salles.
Quel dommage, quand on a un talent d'écrivain comme le tien, d'aller danser au théâtre,
lui reprochait Sido. Mais Colette n'avait pas renoncé à écrire, elle avait besoin de monter sur les planches pour conjurer la solitude de l'écriture et l'angoisse de la page blanche.
Merci beaucoup Antoine Compagnon.